pas évident.
C'est pas évident.
Bonjour à toutes et à tous, à l'occasion de la journée débat échange autour de la représentation des banlieues dans les médias, nous avons installé notre studio mobile au cadran où se déroule toute cette journée. Durant cette journée justement, des élus, des institutions, des journalistes, des associations citoyennes nous proposeront de nous questionner sur cette thématique, celle de les représentations de nos quartiers, ce que nous appelons aussi les banlieues.
Mais le temps nous étant compté, JC, je te propose de plonger directement au cœur du sujet en présentant rapidement notre équipe et nos premiers invités.
Eh ben, riche idée, Dulcinea, heureusement que tu es là pour nous remettre le truc. On sent que tu reprends les réflexes, hein.
Ah oui, hein, j'essaye en tout cas.
Alors dans cette équipe, nous avons Jean-Jean qui s'occupera de la logistique et bien sûr, c'est notre ami Damien à la réalisation.
Pourquoi une radio de quartier peut apporter quoi que ce soit? Moi, je vois une radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Bon. La force de vouloir de... Alors, tout le monde va parler. Or, malheureusement, parler, c'est un art.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Très bien, nous allons essayer de ne pas lambiner, ne pas tergiverser, ne pas nous égarer.
Principe Actif, le mix des cultures.
Voilà, nous verrons bien justement si parler est réservé à ceux qui possèdent cet art ou si au contraire la prise de parole peut être facilitée, démocratisée, en tout cas favorisée. Nous allons commencer avec un premier plateau, on vous passera le sommaire parce que nous parlerons de la représentation dans les médias, nous reparlerons aussi de l'approche journalistique, nous parlerons de la place des habitants et des initiatives habitants dans cette question de représentation. Mais tout d'abord, plantons le décor, parlons du contexte et nous recevons à nos micros Marc Villemot, président de l'association Ville et Banlieue, une association de maires, et Monsieur Driss Etazaoui, vice-président de la politique de la ville, Évreux, porte de Normandie. Une toute première question, Dulcinea, qui nous paraissait tellement évidente.
Tout à fait. Alors, en tant que... Donc, on a les deux co-organisateurs de cette journée. Donc, la première question que nous voulons savoir, c'est quelles sont les démarches, les constats qui nous amènent aujourd'hui à organiser cette journée de débat.
Marc Villemot.
Nous avons été confrontés depuis à peu près 2 ans à un questionnement qui a été posé par le plus haut niveau de l'État lui-même, à savoir tout ce travail qui est fait depuis 40 ans, qui a coûté beaucoup d'argent pour... on va dire aller dans le sens de la rénovation urbaine d'une part et de la reconquête républicaine des territoires urbains fragiles d'autre part, et en disant mais enfin est-ce que il faut continuer? Les problèmes demeurent, les problèmes sociaux, les problèmes culturels, les problèmes évidemment d'insertion vers l'emploi. Et nous, les maires ou les responsables d'intercommunalité ou les responsables dans des régions également qui ont des compétences pour l'égalité territoriale, on a un peu mal digéré, pourrait-on dire, le fait de s'entendre questionner. Pour nous, c'est tellement évident que la République ne doit pas baisser les bras parce que les situations sociales, économiques continuent à fragiliser les territoires et leurs habitants, on a engagé une démarche de réflexion, de promotion de nos territoires, en constatant aussi que à partir de nos territoires, il y a plein de choses drôlement bien qui se font. Il y a des gens qui ont des initiatives sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de la conception de la rénovation urbaine, mais que ça souffre aussi de l'image qui est véhiculée par, souvent, le traitement d'événements qui, eux, ne sont pas inexistants, c'est vrai. Des problèmes de drogue, des problèmes de délinquance, des problèmes de criminalité, mais qui, souvent, prennent le dessus dans l'image qui est apportée à nos quartiers. C'est donc un sujet qui nous paraît tout aussi important que celui simplement des moyens à mettre en œuvre.
Alors vous nous parlez justement en tant que Ville et Banlieue, association de maires qui s'est emparée de cette question-là. Mais alors est-ce qu'on est sur un courant résistant de maires pour s'aborder cette question-là ou finalement c'est une constatation un petit peu de tous les maires de moyennes et grandes villes qui ont ces questions-là, qui s'en sont emparés ou on est sur un mouvement particulier des maires de France? Parce qu'il existe aussi l'association des maires de France qui aurait pu s'emparer éventuellement de cette thématique. Peut-être même elle s'en empare. Je ne veux pas dire de bêtises. Driss Etazaoui.
La particularité de l'Association des maires villes et banlieues de France, enfin l'une des grandes particularités, c'est qu'elle réunit des maires de diverses tendances. Vous avez aussi bien des maires d'extrême gauche, que des maires de droite, que des maires de gauche et que des maires du centre, dont je suis. Non pas maire, mais en tout cas centriste. Et la question de l'image des quartiers, au-delà la question de la politique de la ville, et donc des quartiers prioritaires et de nos banlieues, est un enjeu majeur qui dépasse l'ensemble des clivages. Et c'est la raison pour laquelle, au sein de l'Association des maires, villes et banlieues de France, on se retrouve sur des préoccupations liées à une constatation territoriale, c'est-à-dire sur les 1500 quartiers prioritaires de France et les 6 millions d'habitants qui y habitent. Et la question de l'image des quartiers, ce pourquoi la ville d'Évreux reçoit aujourd'hui l'Association des maires, est un sujet, au-delà des politiques publiques que l'on traite régulièrement, telles que l'emploi, telles que le sport, la culture, le développement économique et que sais-je encore, qui sont aussi des politiques publiques importantes pour lesquelles nous nous penchons, et les uns et les autres, sur des politiques de rééquilibrage, mais la question de l'image des quartiers, elle surclasse de mon point de vue l'ensemble de ces sujets. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu de réconciliation nationale. Ce qu'on donne à voir de ce qui se passe sur les 1500 territoires prioritaires de France et de Navarre est éminemment important, parce que nous forgeons quelque part, et les médias dont il est question aujourd'hui participent et contribuent à forger l'opinion de nos concitoyens sur ces territoires.
Alors justement, aujourd'hui, dans les temps d'échange, on va avoir la croisée des regards du monde politique, des observatoires, des journalistes, des acteurs de terrain, des médias associatifs ou citoyens, plus précisément, dont on aura l'occasion d'échanger un peu plus tard dans cette émission. Il est essentiel, au bout d'un moment, que ce soit des regards croisés et des actions communes. Qu'en attendez-vous de ces échanges, finalement ? Qu'on se mette tous autour de la table et puis qu'on trouve des moyens d'action ? Enfin, comment et d'ailleurs, on n'est pas au début des moyens d'action. Hein, c'est bien une étape. Je sais pas comment. Quel est l'intérêt de croiser les regards ? J'ai un peu répondu à travers ma question, mais bon, quel est pour vous, en tout cas, cet intérêt de croiser les regards ?
Aujourd'hui, il n'était pas pensable, il n'est pas imaginable de se retrouver entre élus locaux et de se raconter un certain nombre de choses. Ça, on a déjà l'occasion de se le dire. Il n'était pas question non plus de réunir la sphère des journalistes, la communauté des journalistes. Ariane Chemin est à ma droite. Manière à ce qu'il puisse y avoir... Désolé, donc je vous ai...
Vous me tuez le suspense, c'est terrible.
Et donc voilà, l'idée c'était effectivement de croiser les regards et de croiser les expertises et de faire en sorte que les compétences des uns et des autres ou l'expertise qui est la nôtre puisse être finalement puisse faire l'objet de discussions, de concertations. Et l'idée c'est de nous retrouver, un, d'abord sur les constats, est-ce que les constats sont partagés, deux, sur la question des responsabilités. Je veux dire, aujourd'hui on fait porter la responsabilité aux médias, mais on a tous une part de responsabilité dans l'image que nous renvoyons de nos territoires. Nous-mêmes élus locaux, nous avons aussi une responsabilité et nous l'assumons. Et puis troisième sujet, c'est la question des solutions, la question que vous posez à juste titre. Quelles sont les solutions ? Parce que c'est bien de nous voir, de nous retrouver, de discuter, d'échanger de grands concepts, de grandes théories. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et une fois qu'on a dit qu'on n'était pas content, et que la presse, grosso modo, et pas de manière générale, ne faisait pas bien son boulot, et que nous, élus locaux, on n'était pas contents de la manière dont la presse faisait son boulot, une fois qu'on s'est dit tout ça, on fait quoi ? Eh bien, aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de signer ou de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs très opérationnels, voilà, qui vont pouvoir exister grâce au soutien des uns et des autres. Moi, je pense par exemple à BFM TV qui est là aujourd'hui. À BFM TV, on ne l'attend pas normalement sur une opération comme celle-ci. S'il y a bien un média qui fait l'objet d'une critique acerbe, c'est quand même le groupe BFM TV RMC. Donc le fait que BFM TV soit là déjà aujourd'hui sur cette question-là, c'est une information. Le fait que le groupe BFM TV également travaille aux côtés des élus locaux, c'est une deuxième information. Et je pense que déjà, voilà, on avance.
Sans focaliser forcément sur BFM TV, c'est peut-être après des questionnements sur notre mode d'information et comment on en veut. Est-ce qu'on en veut en continu ou est-ce qu'on
en veut avec eux
de manière plus posée ? Justement, nous recevons, nous accueillons sur ce plateau, parce que c'est déjà installé il y a un petit instant, Ariane Chemin, vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes d'ailleurs en train de réaliser un reportage autour de la ville de Trappes, vous en avez parlé tout à l'heure sur le plateau. Nous accueillons également Rodolphe Thomas, vous êtes vice-président de la région Normandie sur la politique de la ville et également maire d'Hérouville-Saint-Clair. J'ai envie de me retourner vers vous tout d'abord, Ariane Chemin, quand on abordait cette question de croiser finalement les regards sur cette question d'image des quartiers, image des territoires, vous l'avez exposé tout à l'heure sur ce premier atelier en disant, bah, voilà, c'est par la proximité, c'est par la rencontre. Et moi, il y a un élément qui m'a parlé. Vous disiez, bah voilà, c'est à travers aussi des stagiaires que vous prenez dans votre équipe, qui sont des personnes de Trappes avec qui vous travaillez sur ce reportage autour de la ville de Trappes. Et moi, j'avais envie de dire, il y a un côté éducatif en fait dans cette approche journalistique.
Éducatif, je ne sais pas, mais c'est toujours. Alors moi, je suis reporter, donc je suis spécialiste de rien. Je ne suis pas spécialiste de la banlieue. Et effectivement, on a fait une immersion avec ma consoeur Raphaël Baquet à Trappes pendant un an. Et forcément, vous nouez des liens d'amitié, etc. Et d'une manière générale, quand on fait du reportage, c'est toujours très agréable de passer autant de temps, puis après de fermer la porte et de dire on n'existe plus, c'est fini, etc. Et comme on est resté en relation, effectivement, avec beaucoup de personnes qui nous ont beaucoup aidé, surtout des femmes, je dois dire, à raconter cette ville depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, à rentrer dans tous les milieux, que ce soit le foot, la religion, le soutien scolaire, les profs, la politique, etc. Et effectivement, on est resté en lien et on essaye, si c'est possible, c'était le cas effectivement d'une jeune fille qui nous a dit, voilà, je voudrais être journaliste, donc on l'a accueillie pendant une semaine au Monde, je vais accueillir quelqu'un d'autre en septembre. C'est voilà, des liens d'amitié qui se sont créés.
J'imagine qu'aussi il y a un lien de réalité en tant que reporter et vous le soulignez là, vous nous disiez je ne suis spécialiste de rien. C'est aussi avoir le retour de là où on est. J'imagine que ce travail de journaliste est forcément dans l'échange avec les personnes qui font territoire.
Mais ce qui nous a frappé, c'est que travailler sur la banlieue, c'est très différent de travailler. Dieu sait si on a travaillé sur mille choses, la politique, des sujets qu'on a priori plus costauds, où il fallait enquêter, où il y avait on avait le pouvoir contre nous. Et ce qui a été compliqué dans cette vie, dans le reportage à Trappes, c'est qu'il y avait toujours cette question d'image qui se posait. C'est-à-dire, vous allez nuire à notre image. Si vous racontez la vérité, ce sera con. Bon, c'est pour ça que on s'est heurté à l'hostilité du maire d'emblée, parce que forcément, ce n'était pas la plaquette qu'il a publiée sur la ville de Trappes. Notre livre ne ressemble pas à ça. Donc, il y avait eu ce problème-là, et aussi pour la première fois peut-être un problème de quel droit vous parlez de Trappes alors que vous n'habitez pas Trappes. Alors que vous n'habitez pas la banlieue. Et nous, on répondait, ce qu'on répond, voilà, moi, j'ai personne qui fait de la politique dans ma famille, j'ai jamais eu envie de faire de la politique, et pourtant, je travaille sur la politique, ou je fais des reportages à l'autre bout du monde, j'ai pas été élevée dans une culture, par exemple, où on m'avait appris ce que c'était que l'Afrique, et pourtant, je peux y aller. Et c'était curieusement, c'était des choses qu'on devait répéter, comme si on comprenait pas que le journaliste, c'est d'abord une curiosité, c'est son impensé, hein, souvent, on se dit, je vais découvrir ce que je n'arrive même pas à former. Et puis c'est se plonger dans des tas de choses qui font la France et qu'on ne connaît pas. Et je disais effectivement que ça m'a ouvert sur j'ai plein d'idées d'autres sujets que je voudrais faire, notamment autour de l'histoire de l'immigration.
Alors, Monsieur Thomas, vous êtes maire d'Hérouville-Saint-Clair, de la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Est-ce que vous, en tant que maire, vous êtes confronté aussi à cette image négative qu'on peut donner à tort à votre ville ?
Je pense que ça a été dit une bonne partie de la matinée. Hein, c'est quelle perception on renvoie à la fois sur les habitants des quartiers, mais aussi de l'extérieur. Et il y a un travail titanesque pour démontrer qu'il y a des richesses, des potentiels. Mais c'est quand tout va mal qu'on met le focus sur effectivement une situation particulière, et on le dit, on le répète, c'est lorsque ça va bien réellement et lorsqu'il y a des belles réussites, eh bien on a tendance, nous les élus, un peu, excusez-moi l'expression, un peu ramer que de dire qu'il y a des potentiels dans tout être humain et dans tout univers et dans tout territoire, et les quartiers ont un potentiel extraordinaire, à condition aussi qu'on les mette en exergue et qu'on fasse l'exemplarité. Je crois que quelle que soit la situation sociale, quel que soit l'âge, je pense qu'on a besoin aussi de véhiculer l'exemplarité pour que ça fonctionne. Maintenant, encore une fois, est-ce que les médias sont là toujours au bon moment ? Vaste débat.
Moi, j'essaie. La question, elle est peut-être. Je me permets. Hein, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est quand vous posez la question, est-ce que les médias sont toujours là au bon moment ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de dire, je souhaiterais qu'ils viennent à ce moment-là parce que c'est ça que j'aimerais. Oui, et de l'autre côté, le média qui se dit, au bout d'un moment, j'irai quand j'ai envie. Enfin, voyez, il y a cette notion quand même de.
Bien sûr.
D'interaction, on aimerait les avoir parfois, et parfois c'est eux qui décident.
En ce qui me concerne, moi j'aimerais les avoir le plus souvent possible par rapport à ce que nous mettons tous les jours de la semaine, des mois et de l'année, que ce soit sur le volet culturel, sportif, éducatif, de l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle. Donc on aimerait bien encore faciliter et valoriser tout ce que l'on fait. Et je le disais tout à l'heure dans les problématiques que nous rencontrons les uns et les autres, c'est le plus difficile, c'est pour un élu de se dire, dès qu'il y a une agression, trafics divers et variés et de se dire jusqu'où l'information doit donner. Même moi, je l'avoue, sauf erreur, Marc, on se dit article de presse, trafic de stupéfiants, trafic de cannabis, interpellation, on se dit merde. Est-ce que, alors on essaye aussi de retrouver un peu l'information, mais c'est normal. Et ça, dans la charte éditorialiste de Ouest-France, pour pas le signaler, eh bien fait son travail aussi. Mais et ça renvoie une mauvaise image. Donc comment relayer? Et on se dit à un moment donné, est-ce qu'on peut répondre en fonction de l'article? Il y a matière à répondre. D'autres, il y a le constat qui est implacable.
C'est justement, Ariane Chemin, journaliste au Monde, là vous aviez envie de
oui,
réagir.
Parce que sur la mauvaise image des banlieues, il y a un épisode qui m'a beaucoup frappé cet été. Ça va vous paraître bizarre parce qu'on est à Évreux, c'est pour ça que j'en parle. Quand il y a eu cette histoire, on a découvert qu'Alexandre Benalla avait eu un rôle. On a beaucoup fait des portraits d'Alexandre Benalla. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que tout le monde racontait, oui, Alexandre Benalla, il vient de la quartier de la Madeleine à Évreux. Et parce qu'il s'appelait Benalla, et parce qu'il venait du quartier de la Madeleine à Évreux, il aurait dû être bête. La preuve, c'est que quand il a parlé devant la commission d'enquête du Sénat, tout le monde a dit « mais quelle intelligence, c'est incroyable, c'est un surhomme ». C'est juste quelqu'un de très intelligent. Et pourquoi on ne serait pas intelligent quand on habite dans le quartier de la Madeleine à Évreux? Ça m'avait frappé, j'ai trouvé que c'était une forme vraiment de racisme à l'envers.
On va en rester là pour ce premier plateau. On aura tout un tas. Oui, je vois bien, mais on pourrait faire une émission d'une heure tous les quatre autour de la table et refaire
fini,
à chaque. Bah, sur ce plateau-là, oui.
On change. Deuxième.
Non. Chacun son tour, justement. Nous allons changer d'invité, changer d'angle de vision. C'est très rapide, mais rappelons qu'il existera une possibilité de retrouver l'intégralité des échanges qui sont filmés aujourd'hui par nos amis du service jeunesse. Et bah, l'idéal, on vous donnera les liens et vous pourrez retrouver ces vidéos, bien entendu. Merci beaucoup à vous, Ariane Chemin. Merci beaucoup à vous. Merci à nos trois autres invités issus du milieu des élus, Marc Villemot, Driss Etazaoui et Rodolphe Thomas. Dulcie, tu nous avais prévu une pause musicale, toi, non?
Une petite pause musicale, bien dans le thème. Alors,
ce super.
Sera Kerry James, Banlieusard. J'espère que vous allez apprécier l'écoute.
On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le deux. Pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour il y a de France qui peut le nier. Et moi je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui nous retiennent ça. Je suis pas une victime mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être, je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres, mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés, le système ne m'a rien donné. J'ai dû le braver depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient. Eux investissaient en bourse, j'étais censé échouer. Finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle, la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système, je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, on est perdant. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non? Les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos? Eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et luttent nos problèmes. Mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations.
Alors ce fut un court extrait pardon, de Kerry James, banlieusard. Jingle, s'il vous plaît.
La musique a une importance capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
Toujours en direct du Cadran, à l'occasion de cette journée débat autour de l'image des quartiers dans les médias plus spécifiquement. Nous poursuivons nos rencontres et nos échanges sur un plateau sur lequel on voulait interroger la représentation de nos quartiers dans les médias. Nous avons donc Philippe Rio, maire de Grigny. Alors Grigny, c'est notamment l'un où il y a notamment le quartier de la Grande Borne qui a fait notamment l'actualité dernièrement. On pourra y revenir dans un petit instant. Nous avons également Jérôme Bouvier, pardon, journaliste RFI, mais qui aujourd'hui notamment œuvre au cabinet du ministère de la Culture et qui est organisateur des Assises internationales de... Non, bah vous me corrigerez. Notamment organisateur des Assises internationales du journalisme. Vous me corrigez tout de suite ou...
Oui, c'est un temps passé. J'ai été effectivement conseiller en charge des métiers de la presse auprès de Fleur Pellerin et Audrey Azoulay, mais c'est terminé depuis 2 ans. Mais là, je suis là surtout en tant que président d'une association qui s'appelle Journalisme et Citoyenneté et qui milite pour le dialogue entre journalistes et citoyens, notamment dans les quartiers populaires.
Et nous avons également Nora Amadi, alors qui est journaliste de Vox Pop, notamment sur Arte, et qui est rédac-chef de Fumigène Le Mag.
Exactement, qui n'est pas très loin, dans la banlieue d'Hérouville-Saint-Clair.
Voilà. D'ailleurs, c'était drôle, on avait eu l'occasion de croiser Julien Pitino à une époque, exactement, d'échanger longuement avec lui sans faire ce lien. Donc, c'est un plaisir de le faire aujourd'hui.
Voilà, mon rédacteur en chef photo, et moi, je m'occupe du reste.
Nous sommes autour de cette table pour échanger autour de cette question de la représentation de nos quartiers dans les médias. On en a parlé ce matin de ces aspects négatifs, de parfois les polémiques qui peuvent émerger de ça. Je pense à vous, notamment Philippe Rio, l'échange qu'il y avait eu avec Zemmour et la réponse que vous aviez apportée et la décision de justice qui en suivra prochainement, mais qui n'est qu'un exemple finalement de certaines largesses qui sont parfois ouvertes sur la place médiatique.
Oui, il est clair que les quartiers et leurs habitants sont aujourd'hui bouc émissaire de la société, espèce de civilisation perdue, où le politique, lorsqu'il a une vision extrémiste, nous pointe du doigt, comme tous les maux de la France. Et puis... je pense que tout ça relève du mythe du mauvais sauvage, où nous serions une civilisation un peu étrangère à ce qui se passe sur le territoire national. Et à partir de là, toutes les dérives. Et la machine médiatique n'échappe pas à cette idéologie qui existe, qui, encore une fois, n'est pas nouvelle et qui va jusqu'à maltraiter, je parle de maltraitance médiatique, lorsque des faits concrets, observables, vérifiables, pointent des territoires, leurs habitants, avec une particularité, c'est qu'on parle de uniquement 5% des gens qui ont des vies exceptionnelles, des joueurs de foot, des chanteurs, des gens qui ont un parcours exceptionnel, et puis des 5% de celles et ceux qui ont un parcours terrible, trafic, djihadisme, si on parle notamment de trap, je trouve que le livre La Communauté montre bien cette difficulté. Et puis les 80% de la vie des gens n'en parlent pas. On ne parle pas de la vie normale, on ne parle pas de... pour ça que je parle d'éloge du quotidien ou de la banalité, de ces petites vies, de ces petites victoires, de ces petits rires qu'il y a tous les jours dans nos banlieues et qui ne sont jamais retranscrits dans le récit médiatique français.
C'est la posture, alors là en l'occurrence dans ce que vous évoquez, il y a la posture médiatique qui est interrogée. J'ai envie de me retourner vers Nora Amadi, notamment, dans ce que vous proposez, vous notamment, à travers votre travail journalistique. Il y a un autre angle d'attaque, c'est abordé un peu différemment. Quel est un petit peu le secret de cet angle d'attaque différent?
Alors, via Fumigène?
Notamment, ouais.
Alors, écoutez, l'idée, effectivement, était de se réapproprier une parole qui est souvent, en fait, prise en otage presque par, par une production médiatique qui est parfois loin de ces problématiques que vient d'expliciter Philippe Rio à l'instant. Donc l'idée est de se réapproprier en fait la parole, de se réapproprier le récit, et par ce biais-là aussi en fait de faire une forme d'éducation aux médias et de permettre en fait à des jeunes issus de quartiers populaires ou à d'autres qui auraient une forme d'inclination sur ces sujets en fait à raconter autrement, voilà, avec d'autres intervenants, par le biais d'autres focales. L'idée n'étant pas juste de faire de l'information positive, on n'est pas là pour faire le journal des bonnes nouvelles, hein, soyons clairs, mais juste en fait de permettre de changer de focale. C'est vraiment la manière dont on se définirait, et surtout en fait de permettre de faire émerger d'autres acteurs, d'autres grilles de lecture en fait de cette réalité-là, qui est forcément beaucoup plus complexe que ce qu'on a tendance en fait à donner à voir aujourd'hui en fait aux spectateurs, téléspectateurs et lecteurs.
Se réapproprier l'information, se réapproprier le média, c'est pas chose aisée. J'imagine, Jérôme Bouvier, vous, à travers l'association Journalisme et Citoyenneté, il y a cette notion de citoyenneté, du coup de participation à la fabrication du média ou de l'information en l'occurrence. C'est pas évident. Là, pour la petite histoire, Principe Actif, nous sur Évreux, c'est un exercice auquel ça fait 10 ans que nous essayons. On peut pas considérer que ce soit abouti comme démarche encore après 10 ans, et même notre expérience n'est pas définitive.
Non, ça, je vous confirme que c'est pas définitif. Ça fait 30 ans que je participe à des débats comme celui d'aujourd'hui, et je vois que le malentendu entre les journalistes et leur public est toujours aussi fort, toujours aussi puissant, et parfois même on se demande si on va trouver les moyens, un peu comme Sisyphe qui remonte son caillou, de pouvoir trouver enfin les voies du dialogue. En tout cas, moi j'ai une certitude, c'est que c'est pas les médias qui peuvent seuls faire ce chemin. Il y a une responsabilité du public, il y a une responsabilité des citoyens dans la manière dont ils s'informent aussi, dans la manière dont ils se comportent par rapport à la production médiatique. Et il faut donc trouver dans ce dialogue entre journalistes et citoyens des réponses à cela. Il y a des choses qui me frappent toujours, c'est qu'effectivement il y a les tropismes de la production médiatique, que l'on s'intéresse plus volontiers au train qui n'arrive pas à l'heure, pour reprendre des vieilles formules. Et je me souviens du désarroi d'un élu qui m'avait dit, vous avez été plus de, à l'époque je dirigeais une rédaction de la radio publique, vous avez été plus de 30 journalistes à venir après l'incendie d'une bibliothèque, et il n'y avait aucun d'entre vous à l'inauguration de cette bibliothèque. Cette phrase m'a marqué parce que effectivement il n'y a même pas France 3 Île-de-France, il n'y a même pas France Bleu Île-de-France qui était à l'inauguration de la bibliothèque en question, et quand elle a brûlé tout le monde est venu, parce que quelle terreur qu'une bibliothèque qui brûle. Donc là il y a un vrai problème d'aller toujours vers le sensationnel, vers ce qui ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas que ça. Je pense aussi qu'il faut que les habitants sortent aussi de leur cliché vis-à-vis des médias. Or, il y en a aussi, parce qu'on ne peut pas dire les médias. Il y a 35 000 journalistes, il y a des milliers de médias différents, il y a des milliers d'approches différentes. Et ce qui sort pendant 7 secondes sur BFM TV ou MLB n'est pas de la même nature que ce que fait le travail du localier, du parisien. Donc il faut aussi aller vers le complexe des deux côtés, quoi.
Mais alors, comment on se réapproprie en tant que citoyen le média? Comment est-ce que voilà, le citoyen peut évidemment être fabricant d'informations selon son prisme à lui, justement?
Alors ça, c'est un vaste débat. Si on avait trouvé la solution, je pense qu'on ne serait pas en train de débattre aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est à co-construire, qui est à inventer. On voit bien aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, il y a une forme de réappropriation, en fait. Et beaucoup de reporters, enfin beaucoup de citoyens se disent aussi reporters et produisent finalement une sorte d'information. Après, on voit que le pendant, c'est aussi le culte de la rumeur, en fait, et auquel il faut être assez vigilant. Mais il y a des choses à inventer, et pour ça, il y a quelque chose effectivement à co-construire, je pense, entre les élus locaux, les municipalités, les producteurs de médias au sens large, les médias de proximité, les médias mainstream. Mais pour ça, encore faudrait-il qu'on arrive à mettre tout le monde entre guillemets autour de la table pour réfléchir ensemble à comment aussi recréer de la confiance. La clé, c'est la confiance, je pense. Et on voit bien qu'aujourd'hui les journalistes sont un des métiers les plus détestés après bûcheron, ne me demandez pas pourquoi, et huissier, ça interroge quand même en fait le rapport qu'on a à l'information, à la construction de cette information, et au regard aussi en fait que les citoyens portent sur leurs médias. Donc se réapproprier le média, c'est bien. Maintenant, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la relation de confiance à retisser, et je pense que l'idée d'avoir des profils de plus en plus divers dans les rédactions de grands médias ou des petits, parce qu'en fait, il n'y a pas de petits et de grands médias. On va tous, en fait, piocher de manière assez, assez fine, en fait, dans notre information. Vous, vous êtes là aujourd'hui. On regarde BFM TV, on regarde potentiellement France Télévisions, on lit le journal local, on s'informe sur la page de notre ville via Facebook. Voilà, on est tous, en fait, des pluriconsommateurs, et c'est ça qu'il va falloir imaginer, dans le sens où, une fois qu'on a rétabli cette confiance, peut-être, trouver, en fait, une manière de se réapproprier en fait ces médias-là, cette information. Et je pense que l'enjeu, effectivement, on n'y est pas encore.
Hein. Oui, non, c'est qu'il y a encore du boulot. Il y a aussi une question, au bout d'un moment, aussi du choix de son canal d'information. Enfin, je me permets, ça a été juste évoqué tout à l'heure dans les échanges, mais on choisit aussi par quel canal on s'informe, on choisit aussi par quel canal on décide de voir. Il y a une incidence quand même là-dessus, non ? J'imagine, il y a le choix de l'auditeur, ou peut-être le ce que l'auditeur veut, le spectateur, ou le lecteur, ou le... Il y a cette question-là quand même.
Dans ce grand malentendu qui se poursuit entre journalistes et leur public, moi, il y en a un qui me frappe de plus en plus avec l'explosion de l'usage des réseaux sociaux. C'est que vous avez, on va faire un nominatif, Ariane Chemin, qui était là tout à l'heure, par exemple, elle était l'année dernière avec Raphaël Baquet pendant une semaine aux Assises internationales du journaliste comme présidente de jury. Elles font un super boulot. Alors, vous êtes d'accord, pas d'accord sur le regard qu'elles portent sur Trapp, mais elles font un super boulot en longueur. Etc. Sauf que quand tous ces journalistes qui font un beau boulot se justifient de leur travail, il parle de médias que le public ne lit plus. Enfin, je crois qu'il faut oser regarder ça en face. C'est-à-dire que je doute que la semaine dernière, nous avions un débat, il y avait Le Figaro, l'UMA, La Croix, Le Monde, il y avait tout le monde. Bon. Sur la question de la diversité des médias et de la diversité dans les médias. Donc c'est deux sujets. Mais je crois qu'il faut regarder ce bilan de façon objective. Les jeunes des quartiers, je pense qu'aucun ne lit ces médias. Donc tous ceux qui disent, mais attendez, on fait un boulot sérieux, regardez, on a fait ça, certes, mais le public a quitté. Dans la France des ronds-points qui ne s'est pas reconnue dans le travail médiatique disait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'elle ne lit même plus la PQR, elle est sur un autre univers, elle s'est reconstituée un univers de processus d'accès à l'information dans lequel les médias, entre guillemets, mainstream, n'ont plus grand rôle.
Vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, non. J'ai l'impression de partager une même souffrance que les journalistes qui sont à la table autour de moi. Ils parlent de confiance et de défiance et de malentendus. J'ai l'impression que c'est le problème avec la vie politique française aussi. Et effectivement, on doit faire quelque chose. Toutes les bonnes volontés doivent se réunir, c'est facile de dire ça, mais c'est quand même la base. Et effectivement, il y a des localement, certainement, à faire bouger aussi un peu le système. Une des pistes tout à l'heure que j'ai entendu de Madame Interman sur une loi sur la presse, je crois, je ne suis pas un grand spécialiste, va passer à l'Assemblée nationale et on sent bien...
Réforme de
l'audiovisuel public. Je ne sais pas si il y aura le privé dedans, peut-être utile, je ne sais pas. En tout cas, un balayage certain du regard que cet audiovisuel public peut porter sur nos territoires et nos vies.
Et alors moi, je voulais juste ajouter un petit truc, parce que j'avais perdu le fil de ma pensée tout à l'heure et ça m'est revenu. La question, elle est aussi fondamentale dans la diversité des profils en fait, qu'on a chez les journalistes aujourd'hui. Il est hyper important d'avoir des gens en fait qui soient assez représentatifs de la société française, et on voit bien à quel point les modes de recrutement aujourd'hui des écoles de journalisme, des grandes rédactions nationales ont toujours un peu tendance en fait à représenter plutôt des catégories socio-professionnelles aisées qui viennent souvent en fait non pas de quartier, ni de zone rurale, oui, mais plutôt de centre-ville, plutôt des profils inclus. Et on voit à quel point cette question de la confiance que je vous disais tout à l'heure, elle est aussi un petit peu égratignée par ça. Et on l'a vu notamment sur la crise des gilets jaunes et la manière dont on a pu calquer des représentations sur ces manifestations, sur les ronds-points. Et ça aussi, l'enjeu, je pense, est là. Mais je parle sous le contrôle de Jérôme Bouvier. Il y a de plus en plus d'associations qui se sont montées. Je pense à des structures comme la Chance au concours qui permettent en fait à des jeunes gens, des boursiers, de se préparer aux écoles de journalisme, de prétendre du coup intégrer et ensuite intégrer des grandes rédactions. Ça aussi, je pense que l'enjeu, l'idée n'est pas juste de se dire comment est-ce qu'on change la manière de se représenter les quartiers populaires. Il n'y a pas une solution en fait, mais il y en a 300, et malheureusement, il va falloir tout engager en même temps.
Je vois, Jérôme Bouvier, vous êtes emparé du micro. Je vous laisserai la dernière prise de parole.
Non, d'un mot pour dire quand même des choses un peu positives et optimistes par rapport à ce que vient de dire Nora. Sur la formation des journalistes, moi j'ai créé Journalisme et Citoyenneté après Clichy-sous-Bois, après la mort de Ziad Ebouna, et c'est ça qui m'a... Et entre parenthèses, le parallèle de discours sur la crise entre ce qui s'est passé en 2005 et ce qui se passe aujourd'hui est assez stupéfiant, dans l'incompréhension encore. Mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont faites sur l'accès aux écoles de journalisme. Mais il y a maintenant l'étape d'après, c'est dans les rédactions, puisque ces jeunes, on leur demande finalement, dès qu'ils sont au sein de leur rédaction, de perdre ce qu'ils faisaient, leur intérêt, leur spécificité, de perdre leur accent, pardon, mais c'est des choses aussi basiques que ça, de se normer et d'être... Et une fois qu'ils sont dans la production, ils perdent finalement toute la richesse qu'ils étaient censés incarner. Donc j'ai vu, moi, plein de parcours d'intégration qui n'auraient pas existé il y a 20 ans. Donc ça bouge vraiment. Et maintenant, il faut que les rédactions acceptent que l'on dise, bah tiens, le journal peut être présenté avec quelqu'un qui a l'accent de Marseille pour rester dans des... Alors qu'aujourd'hui, présenter un 20h avec l'accent de Toulouse ou de Marseille est simplement pas envisageable dans les médias mainstream. Donc il faut maintenant que ce combat de l'université soit à l'intérieur, mais à l'intérieur des rédactions, et qu'on ne leur demande pas de dire, maintenant que tu es là, bah, fais comme les autres.
Merci beaucoup à vous, Jérôme Bouvier. C'était la conclusion de ce plateau. Bien entendu, les auditeurs qui veulent aller un peu plus loin pourront retrouver les vidéos qui sont tournées par le service jeunesse, qui seront disponibles avec des liens. Non, Nora, vous voulez conclure ?
C'est ça ? Je voulais vous dire continuez et bravo.
Merci à vous, ça fait plaisir. Merci du coup à vous, Nora Amadi, et merci également à vous, Philippe Rio, d'être passé par nos micros. On part en musique avec une proposition de notre ami Damien, Trans Cabar.
Écris un petit batakumo. Ça je t'y connais pas. Comment la nation mon papa. Mon aimé prison. Écris un petit batakumo. Ça je t'y connais pas. Comment la nation mon papa. Walele walala.
Attends comment y est l'arrivée.
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 Ne la demandez pas de nous manquer. T'as vu fait cuit. Ils ont beau battre à bata pour yon moultani. Mais la demande est bonne, mon manque est quand il fait qui. Car ils ont beau battre à bata pour yon moultani. Walele, walala.
Attends comment y est l'arrivée.
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 Dans le fond, on vit une planche à yo, oui, non, a dit vite. Maman, je pense qu'on rêve, marrez-vous dès que ça l'arrivée. J'en fous qu'à vivre dans sa yo, oui, nan a diviné qu'un mot. Maman, je pense qu'on rêve, marrez-vous dès que ça l'arrivée. Walele, walala.
Attends comment y est l'arrivée.
Walele, walala.
Attends comment y est l'arrivée.
Walele, walala.
Attends comment y est l'arrivée.
Walele, walala.
Attends comment y est l'arrivée.
Puis l'année passée, oui, la mer à l'aviron. Yo ta mon pirogue, ma l'épée c'est pas seul sans l'Asie. Puis l'année passée, oui la mer à l'aviron. Yo ta mon pirogue, ma l'épée c'est pas seul sans l'Asie. Walele, walala.
Attends comment y est l'arrivée.
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 Oh, accélérer l'état d'urgence.
Alors, c'est les discussions déjà qui précèdent la prise d'antenne qui nous amène un peu en retard. Le morceau, c'était Transcabar avec le morceau Tabar Comore. Eh ben, on est toujours en direct du cadran, Damien.
Vous écoutez Principe Actif.
J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Alors voilà, les discussions commencent déjà hors antenne avec, elle est pas mal celle-là, avec Patrick Eveno de l'Observatoire de la déontologie de l'information qui nous disait, vous n'êtes pas les CNRL, c'est un syndicat national des radios libres, un syndicat sur lequel beaucoup de radios associatives adhèrent, nous ne le sommes pas nos principes actifs et nous envoyer, alors vous n'êtes pas une radio libre. Alors ça c'était un peu...
C'était une provocation juste amusante.
Je rebondis dessus tout de même. Mais on est bon client des provocations amusantes, n'hésitez pas. Nous avons également en plateau Carole Sterlet du Parisien, édition 93.
Bonjour.
Bonjour à vous. Nous avions également Nadia Eni Moulet de Melting Book. Et puis nous sommes avec Jérôme Berthaud, sociologue, qui était en plateau tout à l'heure. Nous voulions nous questionner un petit peu sur les approches journalistiques du traitement des médias, et en particulier par rapport aux banlieues. Est-ce qu'il y a, on pourrait dire, une façon de faire spécifique qu'on doit adopter ou qui devrait être adoptée, ou au contraire, c'est retrouver une espèce de normalisation dans la façon d'aborder finalement tous les territoires, banlieue ou pas banlieue, peu importe le lieu. Si quelqu'un veut s'emparer de cette première réponse. On en avait parlé un petit peu, Carole Sterlet, hors micro.
Je pense qu'on est journaliste en banlieue.
Bien dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, moi je suis journaliste en banlieue, mais je suis journaliste avant tout. Donc il n'y a pas de journaliste. On peut être spécialisé banlieue, c'est pas le cas en presse locale au Parisien, on s'occupe de tout. On traite tous les sujets, sauf le sport. Je pense que la banlieue doit être traitée comme de manière générale et pas traitée à part. De toute façon, on entend assez régulièrement, depuis plus de 15 ans sur le terrain, enfin pour ma part, que les habitants veulent être traités comme des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Je vois pas pourquoi il y aurait un journalisme à part.
Sur la façon de... Alors ça, c'est dans votre vision de comment ça doit être traité. Globalement, est-ce que l'information, quand même, dans les quartiers, dans les banlieues, est traitée un peu différemment? C'est ce dont nous avions un peu le sentiment ce matin, en fonction de votre regard. Nadia Enimoulet. Oui, allez-y, oui, on va se passer le micro.
Ouais, merci. Alors, effectivement, je rejoins ce que disait Carole, c'est qu'il n'y a qu'un métier, c'est le métier de journalisme. Après, il y a différentes façons de le faire, plus ou moins bien. Et à mon sens, hein, la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'un journaliste est censé quand même aller sur le terrain. Et la deuxième chose qui va avec, c'est que quand on va sur le terrain, en tant que journaliste, on n'est pas censé préjuger de ce qu'on va trouver. Or, voilà, il y a une réalité, on a des médias nationaux, et ce n'est pas pour jeter la pierre. Hein. Moi, je distingue bien les logiques économiques qui sont liées aux médias et le journaliste, entre guillemets, ouvrier, c'est-à-dire la petite main qui va sur le terrain et qui voilà, il fait ce qu'on lui dit, le pauvre journaliste, entre guillemets. Et donc, pour moi, c'est important, en fait, de bien comprendre qu'il n'y a rien, en termes de journaliste, qui peut se faire sans un travail de terrain, sans une confiance aussi faite au terrain, sans des relations qu'on peut construire aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans un quartier, bon, je n'y habite plus, mais c'est vrai que j'ai un souvenir, dans les années 90, de journalistes qui étaient venus parce qu'il y avait eu un fait divers assez catastrophique, avec des morts, en fait. Et il y avait déjà cette méfiance parce que, en fait, on s'intéresse au quartier que quand ça va mal. Et ça, c'est pas possible. C'est pas le rôle du journalisme. Le réel, effectivement, quand il y a rupture du cours de la normalité des choses, c'est de l'actualité. Il faut le raconter. Mais il faut aussi raconter ce qui relève du quotidien, de la vie des anonymes, parce que c'est aussi une forme de journalisme.
Je vois Patrick Eveno de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Vous réagissiez aux propos que nous avions là.
La question déjà est un stéréotype. Quand je vais enquêter, je ne suis pas journaliste, mais quand un journaliste va enquêter à Clichy-sous-Bois, il faut qu'il mette des chaussettes claquettes. Et quand il va à Neuilly, sur Seine, qui est aussi en banlieue, il faut qu'il mette un costard cravate. C'est une fausse problématique, évidemment. Hein. Donc, il n'y a qu'une seule forme de journalisme. Simplement, il y a des journalistes qui sont respectueux du code de déontologie des médias, qui disent simplement qu'il faut respecter le contradictoire, qu'il faut sourcer avec plusieurs sources, qu'il faut croiser les sources, qu'il faut respecter la vie privée, etc. Et donc à partir de là, on peut enquêter en banlieue comme dans les centres-villes, en Syrie comme à Los Angeles, de la même manière. Simplement, il faut avoir un regard à la fois proche et distant. C'est ça le problème du journaliste, c'est qu'il faut être la proximité et la distance. La proximité, une certaine empathie avec ce que vivent les gens, et en même temps la distance, parce que on peut aussi, évidemment, faire un certain nombre de remarques qui ne plaisent pas forcément au sujet qu'on aborde.
Jérôme Berthaud, sur cette approche voilà, déontologie, de journalisme, de comment aborder, avec cet œil de sociologue, finalement, comment vous le percevez ?
Alors il y a aussi une dimension de cadrage, hein, parce qu'on peut respecter des règles déontologiques. Après, il y a les bonnes manières de faire du fait divers, les bonnes manières de faire du reportage sur des questions de société ou des questions sociales. La question est de savoir quel cadrage on va adopter sur les quartiers populaires. Et on parlait tout à l'heure du travail de terrain des reporters. Malheureusement, dans la plupart des grandes rédactions nationales, notamment de télévision, les reporters sont pas les seuls à décider du cadrage qui va être adopté, et même très souvent ils n'ont pas du tout la possibilité de décider du cadrage. Donc en fait c'est pas eux qui vont décider de la manière de traiter les quartiers populaires quand ils se rendent sur le terrain, et d'ailleurs ce qui crée souvent de l'incompréhension avec les habitants des quartiers, puisqu'en fait les habitants des quartiers peuvent se retrouver face à des journalistes de très bonne volonté qui s'engagent auprès d'eux à dire oui, je vais parler de telle ou telle question, vous inquiétez pas, je veux donner une image plutôt positive de votre quartier, et en fait ces habitants vont voir ensuite un reportage qui est très différent, qui est diffusé, et en fait ils en veulent aux journalistes, alors qu'en fait c'est plutôt le journaliste qui s'est retrouvé contraint à adopter un cadrage qui est différent une fois qu'il est rentré à la rédaction. Mais si on doit parler d'une spécificité, ce qui est clair en termes d'évolution, c'est que c'est des territoires où on a traité de plus en plus les déviances, c'est-à-dire que, et c'est largement lié au fait qu'on y a traité de plus en plus les faits divers, et ça c'est lié aussi aux contraintes économiques, hein, qui se font de plus en plus pesantes sur les médias, et les faits divers sont considérés comme une recette, un levier pour pouvoir augmenter les audiences, et donc les rubriques faits divers, elles ont consacré de plus en plus de place aux quartiers populaires, ce qui peut expliquer qu'on a eu un regard qui était plutôt dépréciatif. Autre spécificité peut-être, c'est que précisément s'agissant des quartiers populaires, on parle de traitement positif et de traitement négatif, hein. Vous allez avoir des habitants, des élus qui vont vous dire régulièrement oui, on parle mal de nos quartiers, il faut montrer les aspects positifs. C'est à peu près les seuls territoires où on va vous parler, la seule thématique où on va tout le temps opposer traitement positif, traitement négatif. On le fait assez peu sur d'autres thématiques d'information, donc ça montre bien les enjeux conflictuels en fait, hein, et de réputation qui peuvent se jouer pour les habitants de ces quartiers.
Alors moi je voulais rebondir sur le fait d'avoir des journalistes qui viennent dans les quartiers et qui ensuite à la rédaction, on en a parlé par exemple pendant le débat, qui se retrouvent à donner des reportages qui sont totalement différents de l'image qu'ils avaient prévu de donner, en tout cas qu'ils avaient dit qu'ils allaient donner aux habitants des quartiers. Donc la ville d'Evron a payé les frais avec un reportage totalement fantasmique sur les habitants de la Madeleine, qui ont été peints comme des habitants sauvages, comme l'a dit le maire de Grigny. J'en ai moi-même payé les frais parce que je viens de la Madeleine, donc d'un quartier qui s'appelle la Madeleine, voilà. Et je me suis même fait agresser le lendemain de cette émission parce que je suis noire, parce que je viens de la Madeleine et que c'est un quartier où les mamies ne viennent pas la nuit, en tout cas ne viennent pas s'y promener parce que c'est dangereux. Donc suite à ça, on a eu une certaine méfiance vis-à-vis des médias. Je voulais savoir si vous aviez déjà eu rencontré, vous aviez déjà été face à une méfiance vis-à-vis des gens des quartiers quand vous aviez été amené à vous rendre sur le terrain.
Oui, mais je pense qu'il y a une méfiance assez spontanée vis-à-vis des médias. Je pense qu'il y a une méfiance assez spontanée, généralisée de la part des médias. Ce que vous dites là, pour les habitants des quartiers,
On peut le dupliquer à l'infini. Les policiers sont pareils. Quand on traite d'une bavure, les autres policiers viennent nous dire « Oui, mais on passe tous pour. » Quand on parle de méfaits commis par un tel ou un tel, on nous dit « Oui, mais on passe tous pour. » Quand moi, je fais des reportages sur le tribunal de Bobigny pour expliquer que les délais de divorce sont de 1 an, alors qu'à Paris, ils sont de 2 mois, et 4 et 6 mois dans les autres départements de Petite Couronne, on nous dit « Oui, mais à Bobigny, on va passer pour la pleureuse encore. » Vous voyez, donc, ce qui est vrai, ce que vous dites là, et cette dénonciation de l'amalgame, de la généralisation, il est vrai pour tout le monde. Après, au lecteur de faire la part des choses, et alors, aux journalistes d'être respectueux et d'être intègres, et d'expliquer qu'il parle d'une famille, de tels fonctionnaires, ou d'un groupe limité de tant de personnes, peut-être. Mais après, au lecteur aussi de faire la part des choses sur ce qu'il va lire et de ne pas extrapoler. Et ça, oui, ce que vous dites, on y est confronté tous les jours. Hein. Et ça, ça ne change pas. Ça, c'est quelque chose qui traverse les décennies, malgré la multiplication des réseaux sociaux. Et on est toujours confronté à ça.
J'aurais envie de solliciter Patrick Evenot sur cette question-là. C'est très non, mais en fait on va tout dire aux auditeurs. On est en train gentiment de manger quelques douceurs pendant que nous discutons. C'est l'heure de manger. On va retourner en atelier juste après. Vous vouliez peut-être d'abord intervenir sur la notion que Doucinet évoquait, mais je voulais aussi après solliciter sur cette notion de c'est grave quand même quand au bout d'un moment on part sur le terrain avec une intention, avec un travail, un collectage d'informations et que finalement en rédaction on en fait autre chose. Voilà. Je ne sais pas après qui veut s'emparer de la parole.
Moi, je voudrais bien m'emparer du fait que entre les médias et leur public, il y a un grand malentendu qui est fondamental et qui n'est pas récent, qui ne date pas de la télévision ni d'Internet, qui existe depuis la presse. Le grand malentendu, c'est que les publics voudraient se voir en miroir et voudraient voir leur propre image dans les médias. On le voit bien, si on sort des banlieues et qu'on parle des gilets jaunes, qui sont dans la même problématique que les banlieues, différemment, mais dans la même problématique, ils privilégient soit leur Facebook Live, soit des médias directs comme Brut ou etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression que le direct permanent va leur donner un vrai reflet. Le seul problème, c'est que quand on veut transmettre à d'autres gens que son propre groupe, il faut synthétiser, il faut monter, il faut traduire. Et comme on dit en italien, traduire, c'est trahir. Et à chaque fois, les gens se sentent trahis par la mise en scène des médias.
Nadia Henimoulet de Melting Book. Oui.
Je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit par, excusez-moi...
Dulcinea.
Dulcinea, c'est joli. c'est que moi, me concernant, est-ce que les... Parce que je suis journaliste, et donc quand des jeunes de quartier me voient arriver, comment ils interprètent ça ? C'est intéressant parce que du coup, j'ai un peu le pied un peu partout, quoi. Déjà, je fais de l'atelier média, donc je vais dans les établissements, dans les associations, rencontrer ces jeunes et essayer de les sensibiliser à l'importance des médias comme enjeu démocratique. Ça, il faut leur rappeler parce que souvent, il y a des raccourcis qui se font. Et puis, aux réseaux sociaux. Mais finalement, et ça, faut être assez... Enfin, faut être franc. Quand ils voient une fille qui s'appelle Nadia, qui a un faciès plutôt typé, maghrébin, et mon associé qui s'appelle David, qui est des Antilles, bah forcément, le processus d'identification il se joue, donc peut-être que ça leur parle plus et là ils peuvent se sentir plus à l'aise pour parler. Alors je dis pas que quand on n'a pas ce faciès on n'est pas légitime, c'est pas ça du tout, mais je pense que ça aide quand même. Mais pour autant on est quand même en phase où on ressent cette méfiance des médias parce qu'encore une fois ils sont très conscients que souvent les médias viennent quand ça va pas, première chose. Deuxième chose, ce que je voudrais dire c'est que il ne faut pas oublier quand même que le métier de... Enfin, la profession est une profession où la sociologie est quand même assez monocolore, pour parler clairement, en termes d'origine sociale également. Et donc forcément, la vraie question de fond aujourd'hui, c'est comment on fait pour que tous les Français, et notamment les gens de quartier, se reconnaissent à travers les gens qui produisent des contenus, qui parlent de leur situation, qui racontent leurs histoires. C'est ça, à mon avis, une des perspectives sur lesquelles il faut travailler davantage pour rendre ces médias plus à l'image, devant et derrière la caméra, et plus à l'image de cette société française.
Jérôme Berthaud, vous vouliez poser votre regard de sociologue.
Alors, pour rebondir sur ce que disait Patrick Evenot, effectivement, les habitants peuvent regretter de ne pas avoir quelque part une représentation qui leur semblerait plus conforme à ce qu'ils ont l'impression de vivre. Mais c'est le propre de gens, pour parler en sociologue, qui sont parlés plus qu'ils ne parlent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beaucoup de gens qui parlent d'eux et très peu l'occasion de prendre la parole en nom propre, ce qui n'est pas le cas d'autres milieux sociaux où ils ont davantage accès aux médias. Je ne parle pas forcément des élites politiques, économiques, mais d'autres milieux sociaux qui vont davantage pouvoir, dans des grands médias, parler en leur nom propre, et c'est moins le cas des quartiers populaires. Mais pour rebondir également sur ce que vous disiez à l'instant, sur la question de la représentativité des journalistes et l'idée que des journalistes qui auraient grandi dans les quartiers populaires seraient peut-être aurait un regard plus pertinent, plus fin, plus juste. Ça aussi, il faut s'en garder, parce qu'en fait, il y a des expériences qui sont déjà menées. Il y a déjà eu des politiques de recrutement menées avec les écoles de journalisme qui ont créé des filières spécifiques de formation, notamment par le contrat de les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces jeunes journalistes, quand ils rentrent dans la rédaction, d'abord, ils sont pris dans les mêmes contraintes que les autres journalistes, c'est-à-dire qu'ils se voient très souvent imposer des sujets, donc au final ils ont très peu la possibilité de faire valoir un point de vue spécifique si tant est qu'ils en ont un, et en plus il se trouve que pour accéder à ces écoles journalistes qui sont très sélectives, on a parmi la jeunesse des quartiers populaires qui rentrent dans ces écoles une fraction de la jeunesse qui est extraordinaire, au sens où c'est la fraction qui réussit à avoir des études supérieures très sélectives, et ils sont très peu nombreux, et en ça ils ne sont plus du tout représentatifs, ces jeunes gens qui rentrent dans les éco-journalistes et qui rentrent dans les très grandes rédactions, de la plus grosse partie des jeunes qui vivent dans ces quartiers, en fait. Donc ils portent un regard, et même souvent ils peuvent avoir un regard parfois très dur à l'égard des jeunes des quartiers populaires, sur le mode moi j'ai réussi à m'en tirer, j'ai réussi à m'en sortir, si on veut on peut, donc voilà, mes congénères de mes camarades de quartier avec qui j'ai grandi, quelque part les conditions d'existence dans lesquelles ils sont aujourd'hui, ils y sont aussi en partie responsables. Donc en fait, cette question de la représentativité de ces effets, elle peut être quand même être nuancée.
Nadia Enimoulet, vous souhaitiez réagir.
Je veux juste nuancer, c'est absolument pas ce que j'ai dit. En fait, moi, ce que je dis, c'est que il faudrait qu'on ait des non, vraiment, c'est pas ce que j'ai dit. Il faudrait qu'on ait des journalistes issus des diversités qui soient médiocres, en fait, un peu, pour rebondir sur ce que disait Françoise Giroud sur les femmes, l'égalité. Le jour où on sera dans l'égalité, le jour où on aura des femmes médiocres, en fait. C'est ça que je dis. Je dis pas parce que je viens d'un quartier, j'ai un regard plus affûté. Et parfois, mon regard, il peut être biaisé aussi par un certain nombre de représentations d'imaginaire que je peux avoir avec moi. Mais c'est valable aussi pour les gens qui ne sont pas des quartiers, parce que quand ils viennent, les journalistes qui viennent des quartiers, quand ils arrivent dans les quartiers, ils ont aussi un certain nombre de représentations, et c'est ça que je dis, en fait. C'est juste qu'il faudrait, en fait, faire en sorte que, alors c'est pas tout le temps vrai, mais il faudrait faire en sorte de normaliser le recrutement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pouvoir améliorer, en fait, la sociologie des journalistes. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, c'est pas tout à fait ce que
donc c'est pas la question du traitement qui vous intéresse, en fait. C'est la question de pouvoir intégrer un média, en fait.
Nous ne repartirons pas en débat, non, j'en suis désolé. J'en suis désolé, parce que si on n'a pas... Après, c'est une question très intéressante. Non, vous pouvez quand même juste répondre, parce qu'il y a une question, une réponse courte, oui, parce qu'on va quand même pas couper le sifflet, qui
non,
que ce
non,
soit.
Non, c'est absolument pas le recrutement. J'ai pas compris, en fait, le débat, pour parler clairement, je pense avoir été clair. C'est pas une question de recrutement, c'est une question d'avoir des médias qui produisent des contenus par des journalistes qui sont à l'image de la société française. C'est aussi simple que ça, avec tout ce qu'il peut y avoir de biaisé, de très bien ou de médiocre. C'est aussi simple que ça.
Avoir une vraie représentation, en fait, qui serait l'image de la société dans le paysage des médias. Vous en êtes quand même emparée, Carole Sterlet, du micro. On vous laissera la conclusion de ce plateau, si vous la voulez bien.
Oui, bon, c'est peut-être un petit peu compliqué de conclure, il y a pas mal de...
De toute façon, que ce soit une conclusion, une dernière prise de parole, alors.
Oui. Je pense qu'il y a aussi une question d'état de droit, c'est-à-dire on parle beaucoup de représentation des quartiers, de mauvaise réputation, véhiculée, construite ou véhiculée par les médias, à différentes échelles. Soit, c'est une vraie question. Mais je pense qu'il y a aussi une question qui ne doit pas être occultée à travers ça,
c'est l'état de droit, c'est-à-dire que le délitement du service public ou des délais allongés en matière d'accès aux droits ou d'enclavement de territoire, de chômage, etc. Et ben, le journaliste est là aussi pour en témoigner. Et ça, ça participe pas d'une bonne réputation. Mais il faudrait pas se tromper de débat non plus.
Merci beaucoup pour vos interventions. Alors merci à Patrick Evenot qui devait sortir du plateau entre deux de l'Observatoire de la déontologie. Merci à vous Carole Sterlet du Parisien édition du 93. Merci à vous Nadia Enimoulet de Melting Book. Et merci à vous également Jérôme Berthaud pour votre regard de sociologue. Nous partons en musique tout de suite et nous retrouvons un de nos camarades, Manda.
La story du type commence mal, mal. Patate de daron, bim, chaos dans une bagarre de bar. Réveil dans le salon d'un appart classe. Sur le carrelage, un canon et un cadavre. Le bad, trip, le gars flip normal. Il ne trouve plus son portable, ça va vite dans sa tête. Il se voit menotte au poignet. Perpétuité, il se sent piégé. Il s'apprête à tailler quand
dans tout ce bazar, les pleurs d'un gosse retentissent. Ça vient de cette porte au fond du couloir numéro des 666. Une main sur la cloche, l'autre prête à clasher. De toute façon, y'a rien à perdre, personne voudra le relâcher. Et puis d'un coup, ding, demi-tour, règle 10. Ça sonne dans la cuisine avec odeur de rôti trop cuit. Un type gît la tête dans le four, sapé comme une starlette. Poignée gauche menottée à une mallette, donc
ça sent le roussi, sombre scénario d'un film gore thriller policier, digne de Tarantino. Sauf que ce coup-ci, les corps gisent, les balles sont bien réelles. Lui encore en sursis, si on le trouve là, c'est la merde.
Et merde,
il vomit, se demande qui a commis ces crimes. Mais aussi, qui sont les victimes. Et pourquoi lui, pourquoi ici. Et surtout, pourquoi sur la table une seringue et une scie.
Plus le temps de cogiter, maintenant il faut agir vite. Le môme est en danger, il faut le sortir tout de suite. Il fonce vers la porte,
c'est fermé.
Putain la poisse, après tout qu'il se démerge. Je le connais pas, voilà ce qu'il pense. Mais ça lui revient comme un flash, la clé est dans la tâche équelle.
Chope la scie,
coupe le bras du lascar qui n'était que braise. Dans la mallette, une clé, une enveloppe à son nom. Il ouvre la porte, la voix du môme, un enregistrement.
Il se dit, quelqu'un se joue de moi. C'est une caméra cachée ou quoi, on se fout de ma gueule. Je me casse, ou bien je fais l'acteur. Il se tâte, puis décide de lire le message. Yes. Vous avez réussi la première épreuve. Prochaine étape, plantez-vous la seringue dans le cœur. Injectez-vous le produit, c'est le seul moyen de sortie. PS, méfiez-vous des zombies.
Aïe. Il m'en prie pour un ouf, dans un délire morbide. Impossible que j'obéisse, quitte à crever ici. Je saisis la seringue remplie du liquide jaunâtre. La vie d'un même le sol, je suis pas le dernier des connards. J'envoie la table, valser dans la pièce en marchant sur le tapis. Plus rien sous mes semelles. Elle commence une chute, elle paraît éternelle. Absorbée dans un tunnel sombre et étroit. Je me nique à gauche à droite.
Je me réveille dans une pièce sombre et vide lorsqu'une voix retentit. Vous auriez dû vous injecter.
Alors c'était Many People de notre ami, comme tu l'as dit JC, Manda.
Principe actif, le mix des cultures.
Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est...
C'était carrément un jingle flash, quoi. Pardon. Moi, j'ai habitude que nos jingles durent quelques secondes, qu'ils disent un truc ou un autre. Non, bah, ce ne sera pas le cas cette fois. Nous sommes du coup avec un plateau sur lequel nous allons nous poser des questions autour de la place des habitants et des initiatives habitants sur justement les projets médias dans les territoires. Nous avons Erwan Ruti de Medialab 93, donc est une structure à Pantin qui est un coworking de. Alors, si vous m'arrêtez quand j'ai des bêtises, il y a plus de 300 personnes non. qui viennent travailler, non ?
Vous ne dites pas de bêtises, monsieur, c'est très bien, c'est parfait. C'est un espace de coworking, une pépinière d'entreprise et un espace d'incubation, comme on dit aussi quand on est moderne, quand on est branché, c'est-à-dire de formation de jeunes porteurs de projets et un espace d'événementiel où on forme à la fois 25 porteurs de projets par an, on a à peu près 80 résidents permanents. Et puis on organise une bonne petite trentaine d'événements par an qui, sur des questions culturelles diverses et variées.
Nous recevons aussi Monsieur Vimeau, Guillaume Vimeau, bonjour.
Bonjour.
Bleu-blanc-zèbre, bleu, hein, c'est
zèbre, ça. Oui, j'allais y venir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Bleu-blanc-zèbre ?
Bleu-blanc-zèbre, c'est un mouvement qu'on a créé avec Alexandre Jardin il y a 5 ans. Ça, on a eu 5 ans la semaine dernière.
Bon anniversaire.
Ouais, merci. Qui était parti d'un constat assez simple, qui était que ce pays regorgeait d'initiatives extraordinaires et qu'on ne les voyait pas, et surtout qu'elles étaient très isolées, très séparées les unes des autres. Et donc, ce qu'on a voulu avec Alex, c'était réunir ce qu'on appelle les faiseux, c'est-à-dire les gens qui concrètement règlent un problème de la société, et en les regroupant par thématique. qui correspondent aux grandes fractures de la société, l'emploi, le logement, l'éducation, etc. Et de dire, ben, on va mettre et faire travailler ensemble des assos et des entreprises avec des élus, etc. Parce que le jour où vous cherchez à régler un problème, vous ne demandez pas à la personne qui est en face d'elle, en face de vous, si c'est une asso ou si c'est une entreprise. Et aujourd'hui, donc Bleu Blanc Zeb, ce sont 430 actions réparties sur le territoire. Chaque mois, on labellise entre 5 et nouveaux porteurs, actions qui reposent toujours sur la même chose, c'est eux qui ont envie de venir, et donc on ne va pas chercher les gens, ça repose sur l'envie de venir travailler avec nous.
Nous avons également Rémi Engrand autour de notre plateau. Bonjour. Vous êtes membre du groupe de travail national sur l'image des quartiers, donc forcément très au fait de ces questions-là. Ah ben le titre, c'est un des titres les plus longs qu'on a eu là.
Non, mais en fait, je suis surtout directeur cabinet communication à Chanteloup-Lévin. Ça, c'est mon métier au quotidien. Après, effectivement, je me suis engagé sur cette co-construction aux côtés de Driss Etazaoui et Guillaume Villemot, qui est à mes côtés également. En travaillant collectivement sur le sujet de l'image des quartiers, qui est le sujet du jour. C'est un travail qui a pu donner lieu à 14 propositions, qui sont listées d'ailleurs dans le dossier qui est distribué à tous les participants aujourd'hui. Et parmi ces propositions, une en particulier est aujourd'hui en phase opérationnelle, c'est celle de l'annuaire des interlocuteurs de banlieue. Voilà, alors je ne sais pas si je développe tout de suite.
Ou... Non, pas tout de suite, nous y reviendrons juste après, avant d'avoir... nous avons un dernier invité à présenter, Dulcina, celui-là, je suis obligé de te laisser le présenter.
Ah oui, le grand, le fameux Maxime Imbert, qu'on connaît bien ici à Évreux et notamment aussi à Principe Actif. Je te laisse te présenter, Maxime.
Voilà, c'est un animateur, c'est pourquoi rouge. Est-ce qu'on laisse Dulcina le présenter? C'est qu'en fait, Maxime Imbert, non, moi je vais le faire à sa place parce qu'il ne le fera pas aussi bien. En fait, Maxime Imbert est un animateur de territoire depuis de très nombreuses années. Il écume régulièrement les quartiers bruyciens, c'est dans ses missions professionnelles, avec la particularité de travailler autour du média vidéo, avec une approche journalistique et une approche aussi artistique. C'est pour ça qu'on estimait qu'il avait toute sa place avec nous et que c'est en fait finalement le seul invité local d'Évreux pour parler sur notre radio locale, pour aborder ces questions de médias et de travail aussi avec les jeunesses et dans les quartiers prioritaires, quartiers politiques de la ville notamment.
La pression, elle est de ouf, je suis le seul.
Vous n'êtes pas seul à travailler là-dessus.
Je l'aurais pas fait mieux que lui. C'est vrai, il a raison. JC, on est régulièrement ensemble puisque j'ai un pied aussi dans la radio Principe Actif. Et effectivement, moi, mon métier, c'est d'être animateur avant tout, responsable d'un secteur, mais animateur avant tout depuis au moins 25 ans dans tout le territoire hébreuicien, dans les quartiers, et notamment de développer depuis une dizaine d'années avec un partenaire qui s'appelle Culture et Nature le média positif, c'est-à-dire on va montrer ce qui se passe. C'est pour ça qu'on se sent des feuseux, on en parle depuis très longtemps, on est vraiment convaincu par cet élan, et nous on, aujourd'hui d'ailleurs même on diffuse en direct la conférence, et on a des jeunes hébreuiciens, puisqu'on va pas les stigmatiser comme des jeunes de quartier, on est des jeunes hébreuiciens qui sont aux caméras, qui sont au cadre et qui envoient le flux sur internet. Si vous le regardez en ce moment en direct, il n'y a rien, mais d'ici 30 minutes vous allez retrouver la conférence, et ben c'est fait par des jeunes. Et nous, ce qui nous importe, je garde la parole, ce qui nous importe, ce qui nous importe, c'est effectivement de parler de ceux qu'on voit jamais dans les médias nationaux, et d'en parler le plus possiblement en positif. Voilà, c'est vraiment on traîne souvent avec une caméra, on fait de l'éducation aux médias dans les collèges, dans les lycées, dans les études supérieures, dans les centres de loisirs, dans les accueils de jeunes, et c'est vraiment notre leitmotiv. On s'équipe de régie Web TV et on pense que vraiment parler des jeunes en bien, ça change le regard des gens, et on est convaincu de ça, aussi bien que nos collègues de la radio qui le font aussi à l'éducation aux médias. On est partenaire sur toutes ces actions-là qui sont liées à la jeunesse. Voilà.
Je voulais revenir du coup en un premier temps autour de l'action de Medialab 93, de Bleu Blanc Zèbre. C'est au bout d'un moment, c'est fédérer les feuzeux, comme vous le disiez il y a quelques instants, Guillaume Villemot. C'est faire avec l'énergie, avec les acteurs locaux. Ça me faisait penser à ça par rapport à ce que Maxime était en train de nous raconter. Finalement, c'est de l'action pure dont il nous parlait. C'est pas si simple que ça, finalement, fédérer, co-organiser, co-construire de l'action. De l'action de terrain. Quelles sont un peu vos recettes à vous, aussi bien chez Bleu Blanc Zèbre que chez Medialab 93?
Vous avez raison, c'est pas si facile que ça, loin de là même. Et il faut pas croire que le monde associatif soit un monde de gens formidablement, uniquement bienveillants. Une asso voit une autre asso comme étant un concurrent sur un territoire, parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle une subvention à obtenir, et ça crée forcément des tensions. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à ce qu'on puisse dépasser ce stade-là et trouver un bien commun qui soit supérieur à tout. Alors, je ne sais pas si on a des recettes. Moi, il y a une chose, en tout cas, auquel je crois et qu'on a instauré et qui fonctionne plutôt pas trop mal. C'est le principe de confiance. Et de se dire que la personne qu'on a à côté de soi, on a des choses à apprendre de lui. Peut-être que lui peut en apprendre de nous. Et qu'ensemble et en confiance, on arrivera à faire bouger les lignes. Et depuis 5 ans, enfin même plus que ça, mais 5 ans officiellement, le principe de fonctionnement de Bleu Blanc Zep, c'est ça. C'est de mettre ensemble des gens qui ont une passion commune, l'emploi, l'éducation aux médias, le logement, etc. Et de se dire, oubliez vos différences et regardez que quand vous êtes ensemble, quand on monte un bouquet adapté sur une solution, eh bien là, on va être drôlement plus efficace. Et c'est cette notion-là qui fait que ça tient. Moi, j'ai toujours dit depuis le début avec Alexandre qu'on tenait comme une sorte de miracle absolu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens. Enfin, on n'avait pas de moyens, on n'avait rien. On a démarré vraiment avec des bouts de ficelle. Mais parce qu'on avait cette espèce de folie ou de cette fougue qui a fait qu'elle était communicative, et ça, c'est une des grandes forces de Jardin, on a pu dépasser les choses et faire en sorte que ça puisse tenir. Mais c'est pas toujours facile.
Erwan Ruti, par rapport à l'expérience Medialab 93.
Clairement, c'est vrai que pendant longtemps, nous, on a produit beaucoup de contenu dédié au quartier, produit par des gens issus des quartiers qui étaient professionnels ou pas professionnels, mais qui produisaient des contenus texte, photos, vidéos sur différents quartiers de France. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que les initiatives, les locales les plus sympas étaient tout à fait utiles et nécessaires et devaient continuer, mais qu'à un moment, il fallait pour faire pression, tout simplement, pour créer un rapport de force, on va dire les choses assez clairement, pour s'imposer dans la société, pour sortir du ghetto. Il fallait être nombreux, il fallait s'allier les uns avec les autres pour obtenir des choses qu'on n'aurait jamais obtenues sans. Et pour créer à la fois la capacité à se faire écouter d'un certain nombre de médias, d'un certain nombre de décideurs politiques, y compris pour, pourquoi pas, faire évoluer les politiques publiques et en particulier créer des lignes de financement dédiées aux médias de proximité, etc. etc. Et ça, c'est des choses qu'on a faites depuis une dizaine d'années maintenant, en essayant de regrouper ces médias d'abord au sein d'un collectif qui s'appelait Presse et Cité, et puis après, en regroupant une partie de ce collectif et ainsi que d'autres gens au Medialab 93 pour les aider à développer leurs projets qu'ils faisaient souvent bénévolement ou un peu à l'arrache, comme on dit, et essayer de les structurer, de leur trouver un modèle économique et un modèle de développement un peu pérenne. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez nouveau dans cette logique-là, de se regrouper pour faire poids.
Je vais me tourner vers vous, Rémi Engrand, sur cette notion aussi de travail collectif, d'organisation, et notamment sur le média. Vous l'aviez abordé en introduction, et puis je vous avais coupé un petit peu le sifflet, on peut se le dire, sur cette notion d'annuaire, d'opérateur de terrain. Ça fait écho aux expériences là qu'on vient d'évoquer. C'est comment, au bout d'un moment, on peut aussi avoir les ressources, savoir où sont les ressources, qui sont les ressources, et comment on peut les mettre en œuvre.
Alors ce projet d'annuaire, il est effectivement complémentaire avec ce que vient de décrire Erwan. Après, on se positionne pas forcément dans un rapport de force sur ce projet-là. C'est-à-dire que pour nous, le sujet, c'est plutôt de créer du lien. On a souvent abordé la question de l'image des quartiers à travers l'angle de gérer du procès fait aux journalistes qui feraient subir au quartier un traitement volontairement dégradant, etc. Nous, c'est pas tant notre sujet. Aujourd'hui, au contraire, on voudrait co-construire avec les journalistes une nouvelle image pour les quartiers. Et ça passe par quoi ? Notre intuition au départ, ça passe aussi par le fait qu'on ne source pas forcément très bien les informations ni les sujets. Donc ce qu'on voudrait, c'est apporter davantage de diversité dans le sourcing et faciliter l'accès aussi aux interlocuteurs pertinents dans les quartiers pour les journalistes, quels qu'ils soient.
Qui c'est qui déterminerait la pertinence, enfin qui est pertinent dans un quartier? Parce que ça, là, c'est très subjectif, hein, je me permets. C'est qui va déterminer au d'un moment que Dulcinea va être pertinente pour nous parler de musique Max pour nous parler de... Qui va le déterminer?
Alors, ce sont les interlocuteurs qui le déterminent eux-mêmes, puisqu'en fait, le principe de cet annuaire, c'est qu'il est basé sur le volontariat. Donc nous, ce qu'on va proposer aux gens demain, c'est de se positionner eux-mêmes comme des interlocuteurs potentiels pour les journalistes. Ça donne aussi quelque part un élan un peu différent, puisqu'on ne va pas flécher en disant on donne le label candidat ou interlocuteur pertinent qui vient d'en haut. On propose aux gens de se proposer eux-mêmes comme étant des porteurs de la voix des quartiers, des visages aussi pour les banlieues. Après, bien entendu, pour la première mouture de l'annuaire, on va aussi s'appuyer sur des réseaux qui sont déjà existants. Je pense à celui de l'IRDSU, à celui du CGET. Il y a plein d'associations qui sont financées aujourd'hui aussi par l'État, l'économie. collectivités. On va bien évidemment aussi s'appuyer là-dessus pour construire la première base. Après, ce qu'on espère aussi, c'est un, que les gens viennent de leur propre gré. Deux, d'accrocher encore davantage de médias, puisque ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que cet annuaire aussi, il procède d'un mariage qui est assez étonnant de prime abord. C'est un mariage, c'est-à-dire que là, on vient de constituer une association qui s'appelle Vue des quartiers, avec le parrainage de Jérôme Bouvier, qui participe à cette journée. Mais cette association, les deux membres fondateurs sont à la fois l'association des maires Ville et Banlieue, mais aussi la chaîne d'info BFM TV. Alors BFM TV, aujourd'hui, quand je vous dis BFM TV, vous pensez Ryanair de l'info, vous pensez la maltraitance médiatique, peut-être la quintessence de la maltraitance médiatique. Et pourtant, quand il s'est agi de commencer à monter un projet d'annuaire des interlocuteurs des quartiers, qui a répondu présent ? BFM précisément. Demain, ce qu'on veut, c'est que le service public nous rejoigne. Ce qu'on veut, c'est que pourquoi pas TF1 nous rejoigne, que d'autres chaînes aussi nous rejoignent, et que cet annuaire, et même des médias écrits, ou voilà, des médias même qui sont des médias purement web, nous rejoignent pour que cet annuaire devienne un annuaire pour les journalistes, fait par des journalistes.
Nous, ce qu'on dit quand on fait de l'éducation média, c'est que vis-à-vis de BFM TV ou de ces médias en continu, c'est qu'on va pas les boycotter. Écoutons-les, mais on pousse les jeunes à se faire leur propre point de vue aussi et aller se fournir, se nourrir ailleurs d'informations pour ressortir justement leur propre point de vue et essayer d'analyser un petit peu l'information à la fois qu'ils reçoivent, l'information qu'ils vivent, et d'essayer de faire un condensé des deux pour justement retranscrire à leur façon, soit par la presse radio avec les amis, soit par la presse vidéo avec nous, ou par la presse écrite avec des copains de Globule, des choses comme ça. Et pour nous, c'est hyper important que les jeunes digèrent toute l'information qu'on leur envoie et qu'ils la retranscrivent à leur façon aussi.
C'est... Et ça fait écho à un autre projet qui est celui qui est assis juste à côté de moi.
Je fais un peu de boulot, je suis pas, désolé. Voilà. Je suis non, désolé. Mais de toute façon, c'est ça aussi. Prenez la parole.
Vas-y, Guillaume.
Vous avez votre propre annuaire. Je vous en prie. Faites-nous en profiter.
Non, mais en plus,
Guillaume, dis-moi, à quel projet il faisait allusion
Il fait allusion à l'Agence des quartiers, qui est une agence qu'on lance là. Et on va signer ce soir, à l'issue de cette journée, l'annonce officielle de l'installation d'un des bureaux régionaux, qui sera installé ici à Évreux. Le principe de l'agence, il est assez simple. C'est un constat, d'abord, c'est que l'image des quartiers, on en parle depuis ce matin, n'a cessé de se dégrader. Mais à la fois dans les médias, mais ça c'est assez rapidement dit, mais c'est surtout aussi vis-à-vis des gens eux-mêmes qui habitent dans les quartiers et des gens de l'extérieur. Par rapport au quartier. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est deux choses. La première, c'est être capable de faire de l'information et donc de produire des récits directement depuis les quartiers, donc avec 15 agences régionales implantées en cœur des quartiers, plus 5 agences en Outre-mer, qui seront capables de pouvoir aller vendre un fil d'infos aux médias, mais pas que aux médias nationaux, aux médias locaux, aux médias régionaux et aux médias internationaux. Et on produit un fil d'infos qui est texte, son, image, photo. Et puis la deuxième jambe de l'agence, c'est pour ça qu'il y a c'est l'agence au carré, la deuxième jambe de l'image, c'est de faire de la formation. Et l'enjeu, c'est que si on veut que durablement cette image des quartiers puisse changer, c'est qu'il faut que ce soit donc les gens des quartiers eux-mêmes qui soient capables de produire du récit. Quand on regarde aujourd'hui la façon dont les écoles de journalisme recrutent et organisent un certain nombre de choses, on voit bien qu'il y a un formatage assez puissant des écoles de journalisme. Et donc on va former chaque année 250 jeunes en alternance au métier de l'information. Blogueurs, vidéastes, etc., etc. Et nous, ce dont on a besoin, c'est des médias locaux associatifs comme vous, qui aujourd'hui ne sont pas considérés par les grands médias. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire que quand vous êtes un média associatif, vous allez voir France Télé, France Bleu, etc. Ils vous regardent en vous disant...
Pas du tout. Alors là, je me permets de vous mettre en opposition. Là, justement, on a notre camarade de France Bleu avec qui nous travaillons régulièrement. Et ce n'est pas une fois ou deux, hein, c'est régulièrement. Nous avons été accompagnés par les... Et là, pour le coup, c'est France, Radio France en particulier, hein, parce que c'est pas forcément tous les médias, effectivement, et ça vous avez bien raison, il y a des médias qui nous ignorent cordialement, mais en tout cas il y a des médias quand même nationaux, régionaux.
Des hommes dans les médias. Ce sont des hommes dans les médias.
Non, ce sont aussi, je pense aussi, parce que c'est pas le seul homme de Radio France avec qui nous travaillons, hein, là je me permets de prendre à partie, mais je pense qu'il y a une philosophie quand même dans les médias. Et tout ce qui est Radio France, France Télévisions, ce sont des médias qui nous ont accompagnés. Pas que nous, en fait, la radio en l'occurrence, hein, là je témoigne de notre expérience radio, mais d'autres associations de médias. Et le réseau Radio France, là pour le coup, a toujours été très présent en termes de médias nationaux. Je me permettais juste de rectifier, parce qu'en plus il est là le camarade, on peut pas laisser passer.
Mais il y a effectivement, on ne peut pas tout amalgamer, mais en revanche, il y a quand même une vraie difficulté aujourd'hui à faire
apparaître ces récits-là. Et c'est ce qu'on entendait ce matin. C'est-à-dire qu'il y a un des grands reproches qui est fait quand même aujourd'hui, c'est l'absence de récits objectifs de ce qui se passe. Et moi, ma signature, ou en tout cas la baseline de l'agence, elle est relativement simple, c'est passer du sensationnel à l'essentiel. Il ne s'agit pas de voir uniquement un journal des bonnes nouvelles, il s'agit d'avoir un journal objectif de ce qui se passe. Et je pense que si on a, et la démarche que l'on a fait, c'est de, le pari qu'on fait, c'est de créer une société privée dont le but est de vendre. Et on vend à la fois aux médias et aux entreprises, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises qui ont aussi besoin de savoir ce qui se passe et qui souhaitent acheter ce fil d'infos. Donc voilà, donc tout à l'heure, on signe l'ouverture ou l'annonce de l'ouverture de notre premier bureau régional après les trois pilotes qui sera donc à Évreux.
Bravo Guillaume, bravo. Alors, c'est une fierté, c'est vrai, pour Évreux.
Bon, on peut dire que c'est intéressant.
Mais en tout cas, nous y serons. Oui, tout à fait. En tout cas, nous y serons attentifs.
Voilà. On espère en tout cas y être invité dans ce genre de
j'ai envie de vous dire, voilà. Maxime Haber, nous y inviterons quoi qu'il arrive.
On est clair.
Peut-être un petit mot de conclusion, Erwan Ruti.
L'information est tout à fait, l'actualité de l'information est tout à fait importante, et pour ça, annuaire indispensable, agence de presse indispensable. Nous, on en a créé une en 2005 qui s'appelait Ressources Urbaines, dédiée au quartier. Et au-delà de ça, il y a aussi le récit global qui est fait par l'ensemble de la société, et aussi des gens qui sont dans l'univers de la réalisation, des films, de la musique, de tout ce qui touche l'imaginaire, de tout ce qui influence l'imaginaire, de la publicité, etc., etc. Et nous, c'est vrai qu'on s'est installé dans un bâtiment qui est géré par une des plus grosses agences de com et de publicité de France, si ce n'est d'Europe, BUTC, pour justement essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait travailler pour influencer des récits globaux. Quand vous regardez Déraciner des ailes sur une vieille chaîne à l'ancienne de télévision qui raconte la société française à travers le patrimoine, les campagnes, les zones rurales, les artisans, etc. Vous avez une vision qui est tout à fait agréable de cette société-là, qui pourtant souffre largement. Voilà, si on pouvait avoir l'équivalent de ce genre de choses sur les quartiers populaires, donc qu'il ne soit pas que de l'actu et de l'information, ça serait génial. Si on pouvait avoir l'équivalent de ce que Jean-Pierre Pernaut faisait à une époque sur les zones rurales, la France profonde et tout ça, dans les quartiers, ça serait utile. C'est une partie de la réalité, mais ça fait du bien d'entendre cette partie de la réalité de temps à autre. Ça serait très indispensable.
Merci à vous, Erwan Ruti, pour cet élément. Vous souhaitiez rajouter un élément, peut-être Guillaume Vimot et Maxime Imbert, c'est vous qui conclurez la prise de parole. Les prises de parole, vous ne faites pas la conclusion de l'émission, on vous connaît. On sait qu'on pourrait poser les micros et vous laisser faire, mais non. Guillaume Vimot.
Non, juste un mot de complément, c'est que, pour revenir sur le projet de l'agence, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de demander quelles sont les recettes qui font que ça fonctionne, je vous parlais du principe de confiance, ça ne fonctionnera que si en confiance on avance les uns avec les autres. Et moi j'ai vu au travers d'un certain nombre de rendez-vous que je peux avoir maintenant, c'est qu'on a besoin d'avoir l'ensemble des acteurs réunis autour de la table, parce que si on veut vraiment et profondément changer les sujets, bah, c'est uniquement comme ça qu'on y arrivera. Sinon, on restera chacun sur son coin. On aura dépensé beaucoup d'argent et au final, il ne sera rien passé.
Merci à vous, Guillaume Vimot, Bleu Blanc Zèbre, d'avoir pris la parole. Je suis en train de libérer tout le monde parce que les conférences reprennent. Merci à vous, Rémi Engrand. Maxime Haber, je voulais vous laisser le dernier tour de parole quand même. Une expertise aussi, tout aussi intéressante. Si vous nous quittez, merci Erwan Ruti également de Media Lab. Il nous restait des petits gâteaux, hein, je vous dis ça.
Ouais, je dois relancer le direct, alors voilà.
Bon, allez.
Je
voulais une prise de parole à vous.
Je suis intéressé par ce projet d'agence, forcément, puisque si nos jeunes hébreuxiciens ont la place dans cette agence, si nos médias indépendants ont la place dans cette agence, et ben forcément que nous aussi on signe et qu'on est complètement d'accord. Que ce soit vous à la radio, que ce soit nous à la télé, Web TV, à l'image ou des partenaires dans la presse écrite, effectivement, c'est intéressant. Ce qui importe pour nous, c'est vraiment de montrer une image positive de cette jeunesse qui se mobilise pour faire des choses et qui a envie de montrer aussi qu'il se passe des choses bien. Et bien sûr, arrêtons de consommer de l'information qui fait peur et qui pousse à la discrimination et montrons des choses positives dans les quartiers, montrons des choses positives dans les villes de France.
Merci beaucoup Maxime Imbert, comme je disais, animateur socioculturel mais spécialiste quand même du multimédia et notamment avec une approche journalistique et artistique. Oui, c'est important de le dire, il n'y a pas qu'une approche journalistique non plus dans le travail que vous réalisez. Merci beaucoup à vous. Dulcie, c'est la fin de notre émission.
C'est déjà la fin.
Alors moi, ce que je voulais voir un petit peu, c'est revenir un petit peu sur tous ces plateaux que nous avons vus, et peut-être quelle idée principale tu aurais retenue de chacun de ces plateaux, une espèce de conclusion introspective de ce que nous avons fait. Nous avons commencé un plateau avec le contexte un petit peu, le constat de sur quoi nous étions sur ces rencontres aujourd'hui, où nous avions Marc Vimeau, président de Ville et Banlieue, Ariane Chemin, journaliste au Monde, Driss Etazaoui, vice-président de la politique de la ville à Évreux, Port de Normandie, Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville-Saint-Clair et surtout, aussi vice-président de la région Normandie sur la politique de la ville. Quel est sur ce plateau-là l'élément qui t'aurait le plus marqué ou que tu aurais retenu? Ça y est, tu l'as oublié cet élément-là.
Non, je ne l'ai pas oublié. Bah, je pense que tout le monde est un peu d'accord sur le fait que voilà, on est aujourd'hui face à une image qui est donnée des quartiers et de la banlieue qui est totalement erronée, en tout cas qui a une mise en lumière du négatif qui est assez présent dans les médias. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y avait tout le monde ici présent, réuni pour lutter contre cette image qui est donnée à tort aux personnes des quartiers.
Nous avions un deuxième plateau autour de la représentation de nos quartiers dans les médias avec Philippe Rio, maire de Grigny, il n'est pas venu hein, malheureusement, Jérôme Bouvier qui avait la partie journalistique, et puis Nora Amadi. Un petit mot sur ce plateau-là? Bah, pas forcément, en pension, on avait un autre plateau, bah, je rappelle nos invités et on les remercie tous d'ailleurs à ce titre-là. Nous avions Patrick Evenot de l'Observatoire de la déontologie de l'information, puis des journalistes Carole Sterlet en édition Le Parisien 93 et Nadia Henny Moulet du Melting Book. Et puis nous avions un sociologue, Jérôme Berthaud, qui est intervenu avec ce regard de sociologue. Je ne sais pas si. Voilà. Vous en parlez tu t'en parles de la parole quand tu veux, Dulcie. Hein, c'est toi qui dis. Hein, c'est toi la patronne au bout d'un moment. Et sur le quatrième plateau, on a parlé des initiatives habitants, le plateau que nous venons de quitter, avec Erwan Rutide, Medialab 93. Guillaume Vimeau de Bleu Blanc Zèbre, Rémi Engrand, qui a travaillé sur le groupe Images de Quartier, et puis Maxime Haber qui nous a partagé aussi sa vision sur le travail médiatique, vidéo et journalistique, mais aussi artistique. Ça faisait une sacrée émission quand même, hein. C'était un beau marathon.
Un beau marathon, oui, bien rempli, avec beaucoup d'informations et de bonnes informations et de superbes invités.
À notre habitude, nous aurons débordé, nous aurons été hors du délai qui nous était donné, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. De toute façon, donnez-nous un micro et on vous en met un petit peu plus. Bien. Comme disait mon bouche, il y en a un peu plus, est-ce que je vous le laisse? Eh bien, nous avons dit oui. Merci Dulcinea pour avoir partagé le micro avec moi.
Merci à toi JC.
Nous avions également dans l'équipe nos camarades, hein, à savoir l'ami Jean-Jean qui nous a fait la logistique autour, et l'ami Damien qui aura réalisé cette émission. Juste petit rappel, à partir de 16h30, comme on est dans la thématique des images, de l'image des quartiers dans les médias, eh bien, vous en voulez, vous en aurez à 16h30 sur notre antenne par le débat que nous avions eu dans le cadre du grand débat avec les jeunes de l'espace jeune de la Madeleine, ou des jeunes de 16 à 20 ans. Nous aurons confié durant 1h30 leur vision du monde. Un rendez-vous à pas rater, hein, vraiment, on vous le conseille. Allez, bon après-midi.